tous, bienvenue à l'église évangélique de Mérin. Ce matin, j'aimerais, en guise d'introduction, vous montrer ce qui a été fait avec les enfants la semaine passée. Vous l'avez vu avec les annonces, vous n'avez peut-être pas tous bien suivi, mais ça me semble important de montrer à l'église ce à quoi les enfants peuvent participer. La semaine passée, en tant que sortie des potes du dimanche, il y avait deux équipes qui ont participé au rallye de la réforme. Je demanderais juste qu'on mette la présentation. Voilà. Donc c'était ce rallye qui était organisé par plusieurs églises, dont l'église protestante et le réseau évangélique, et toutes celles que vous voyez sur le bas de l'annonce. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc en fait, c'est un rallye qui était donc avec plusieurs postes et qui concernait notamment la réforme, mais pas trop, pas trop studieux comme question, c'était comme sous forme de jeu. Mais il y avait toujours un petit discours de celui qui était responsable du poste qui rappelait ce qu'était la réforme. Et je ne demanderai pas aux enfants, parce que les enfants qui sont là, plus les miens ici, étaient présents, mais peut-être qu'ils ne s'en souviennent pas. La réforme, ce qu'on a retenu, c'est que à l'époque, les gens, ils avaient peur de Dieu. Ils avaient peur de Dieu, et du coup la réforme, alors c'est très général, mais la réforme a permis de comprendre que Dieu est amour, et Dieu est plus proche de nous qu'on le croit. Donc sur cette carte, il y avait deux secteurs entre le matin et l'après-midi, et des équipes à chaque fois par deux équipes qui s'affrontaient. Donc une partie dans le parc des Bastions et puis une partie en vieille ville. On passe à la slide suivante. Alors ça c'est la première équipe, l'équipe 109, très réformiste. Et puis la deuxième équipe, la 313. Alors c'est plutôt des plus petits que ce qui était autorisé, mais on s'est quand même bien défendu. Et ils sont là, je crois qu'on peut les applaudir pour ceux qui sont en tout cas présents. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les résultats, non? Alors, on met la slide suivante. Alors, est-ce qu'on a été premier, les deux équipes?
Oui.
Non. Non, on passe à la deuxième slide. Voilà, les vrais résultats. Donc, l'équipe 109 arrivée 7e, c'est un très bon résultat. Et l'équipe 313, qui est avec des tout petits, enfin des grands petits, voilà, qui se sont bien défendus parce que des fois, ils étaient confrontés à des grands en face qui n'étaient pas toujours très sympathiques. Voilà, qui sont arrivés 16e. Donc, félicitations. Ça, je ne dirais pas parce que c'est... Il y avait 18 équipes. Voilà. Donc ça faisait presque 200 enfants qui ont participé. Donc je vous donne mon ressenti parce que j'ai participé dans l'équipe 313. On est arrivé vers la fin, mais ça, c'est, l'important c'était de participer. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir toutes ces églises, et même ce qui peut paraître le comble, l'église catholique qui participe à un rallye de la réforme, mais toutes ces églises qui finalement se sont motivées pour un seul but, faire connaître Jésus, faire connaître l'amour de Dieu. Et puis cet amour de Dieu, quelles que soient les confessions chrétiennes, c'est ce qui a prédominé dans ce rallye, et on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Enfin, j'espère que vous avez eu du plaisir, les enfants. Ouais. Et en plus, la météo était idéale, donc c'était vraiment génial. Et puis, on a eu l'occasion d'apprendre un chant dans l'église de la Madeleine, qu'on va chanter ce matin comme premier chant de louange. C'est un chant qui parle de l'amour de Dieu pour toi seul, le 881. Donc, je vous invite à vous lever.
Et puis, alors moi, j'invite les enfants qui sont là et qui étaient au rallye de la réforme à venir devant. Vous êtes d'accord, hein? Comme ça, vous allez les entraîner. Venez, venez, venez. Vous allez entraîner l'assemblée ici ce matin parce que nous, les vieux, c'est un petit peu plus, on est un peu plus long à la détente. De rester debout pour la suite de ce temps de louange. Et en le préparant, je me disais, c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir un Dieu qui nous donne cette joie. Alors, on n'est pas toujours dans la joie quand même, hein, soyons pas, enfin, peut-être vous, mais en tout cas, moi, il y a des fois, c'est un peu plus dur. Par contre, la joie qu'on peut avoir, c'est que tout au fond de notre cœur et dans notre âme, on sait que Jésus est là et Jésus est présent. Et quand on lui a donné notre vie, on sait que, voilà, il habite avec nous. Et il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais on sait qu'il est là. Il y a une certitude au fond des tripes, j'ai envie de dire. Et j'aime ce psaume 16, je vous en lis quelques toutes petites parties. « Ô Dieu, garde-moi, c'est à toi que j'ai recours. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain. Je n'ai de bonheur que près de toi. » Alors oui, le bonheur, ça peut être un peu partout, mais le vrai bonheur, il est vraiment auprès de Dieu. Et quand on peut prendre le temps de le louer, de nous arrêter, de reconnaître qu'il est Dieu, eh bien, il vient habiter notre intérieur. Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens mon destin dans tes mains. Tu tiens ma vie dans tes mains, tu tiens mon futur dans tes mains, tu tiens mon présent dans tes mains. Et ça, c'est rassurant. Je remercie le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience m'en avertit. Alors la nuit, je ne sais pas ce que vous faites. Moi, j'essaye de dormir, mais ce n'est pas toujours facile. Mais enfin, la nuit, ma conscience m'en avertit. Le Seigneur me conseille. Soyons aussi attentifs à cela. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie et l'âme en fête. Et ça, je pense que ceux qui aiment Jésus, on a ce bonheur et ce privilège de dire « Mon âme est en fête ». Je pense que certaines personnes qui sont peut-être pas en règle avec certaines choses dans leur vie. On a tous des choses à régler, mais il y a quand même des fois, je me dis, quelle chance on a de pouvoir avoir notre âme en fête. C'est pas rien quand même, parce que l'âme, ça peut tourmenter. Mais grâce à Jésus, notre âme est en fête. Je suis en parfaite sécurité. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Alors je vous invite à poursuivre dans la louange avec en filigrane ces quelques versets que je vous ai lus. Nous avons l'âme en fête, le cœur plein de joie. On trouve la joie pleine dans la présence de Jésus. Ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu accomplis. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu accomplis. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es l'homme à ta puissance, ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Seigneur, on veut te dire merci parce que c'est vrai que tu nous promets cette vraie liberté, le vrai bonheur, parce que tu nous promets la lumière dans nos vies. Et Seigneur, je te remercie de ce privilège, en te disant oui, que tu nous accordes de faire de la lumière dans nos vies, là où nous nous ouvrons à toi. Là où tu désires nous libérer, là où tu désires nous sauver, nous guérir, nous restaurer, nous renouveler. Merci Seigneur de pouvoir venir à toi dans ce temps de louange maintenant. Bénis chacun de nous ici. Seigneur, que ta présence puisse faire du bien et révéler aussi une part de ton amour et de ta grâce. Amen. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a prié pour tous, et je crois qu'il est ici, présent au milieu. grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là. En Jésus, je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous, et je crois qu'il est ici, présent en milieu de nous. On veut dire au Seigneur qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, majesté. Des quatre vents, tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Des quatre vents, tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Par ma bouche, tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche, tes paroles soient données. J'aurais envie, si quelqu'un a, en chantant ce chant, qui dit « Me voici, j'aimerais accomplir ta volonté, par ma bouche tes paroles sont données », j'aurais envie d'ouvrir une petite fenêtre témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait tout simplement dire merci au Seigneur ou un encouragement pour nous les frères et sœurs de ce qui s'est passé cette semaine ? quelque chose que vous avez vécu, qui est encourageant, qui ferait du bien à entendre, où vous avez l'impression que le Seigneur vous a guidé. Dominique, comme tu veux. Peut-être qu'on t'entendra mieux. On t'entendra mieux, peut-être. Alors, c'est peut-être pas comme tu veux.
Mes lunettes. Alors, vous savez qu'on est en train de partir bientôt. Bien, c'est le pasteur qui a prêché ici sera voté au mois de juillet dans l'église. On partira fin août et on ne sait pas encore exactement où on va habiter. Il y a eu des problèmes avec notre fils Philippe aussi. Et j'ai commencé un peu à paniquer. Et dans ma lecture suivie, dans les psaumes, j'ai lu un verset que j'aimerais vous lire. C'est le psaume 77, le verset 12. Je me rappellerai des actes de l'Éternel, car je me rappelle surtout de ton miracle d'autrefois. Donc, je me suis dit, mais si Dieu a pu faire sortir son peuple d'Égypte, il a fait des miracles autrefois, il peut aussi faire des miracles pour nous. Donc, ça m'a rappelé la bonté et la toute-puissance de Dieu.
Merci Dominique. C'est vrai que la bonté du Seigneur se renouvelle chaque matin. Vous soyez encouragés aussi dans ce temps de changement. Ouais. Je crois qu'il y avait quelqu'un encore au fond qui a levé la main. Marion, tu voudrais attends le micro qui arrive, parce qu'on n'entend pas bien.
Je ne vais pas faire très long, mais je voudrais remercier tout le monde qui a pensé à moi dans les prières. Et il y a eu un véritable effet. Alors, de tout cœur, merci.
Merci, Marion. Merci, Marion. Que le Seigneur te bénisse aussi. Anne? Ah. Claude? Ah, Sylvie, pardon. Sylvie, il y a le micro à côté de toi.
Alors, merci Claude d'avoir dit que le principal, c'est de participer. Les enfants, samedi avant le 20 mai, j'ai fait une marche. C'était une marche rapide, mais moi, je n'ai pas pu marcher rapidement. Eh bien, j'étais 115e sur 116. Et c'était un bol d'air de 5 km. Génial.
Merci Seigneur.
Et c'est vrai que Dieu pourvoit au-delà de ce qu'on pense et même de ce qu'on demande et même ce qu'on pense pour sa gloire, parce qu'en fait j'avais peur d'être qu'on soit beaucoup serré l'un contre l'autre et j'avais plein d'espace.
Moi j'aimerais aussi porter un petit témoignage par rapport à dimanche passé. Donc il y avait la Race for Gift, donc cette course solidaire, et je crois que notre Père Céleste, je dirais qu'il nous a fait un beau cadeau de cette belle journée. Je crois qu'on a pu, à la fois entre participants, entre les différentes ONG qui étaient présentes, avoir vraiment des contacts vraiment très chaleureux et très amicaux. On a pu s'encourager mutuellement, on a pu courir ensemble, s'encourager. Et je crois que c'était vraiment une belle journée. Et je suis très reconnaissant envers notre Père Céleste aussi d'être présent dans ces moments et peut-être d'être aussi des témoins pendant ces moments où j'entends on est confronté aussi à... pas confronté, mais on est encouragé et dans un groupe qui connaissent pas, qui aiment les gens et qui font beaucoup de choses pour dans le cadre des ONG, mais aussi où notre Père Céleste est là et je crois qu'il encourage aussi tous ceux qui mettent leur temps à disposition pour les autres. Donc c'était vraiment un moment, je dirais, encourageant et où notre père était présent et c'était aussi un sujet de reconnaissance. Merci.
Merci Claude. C'est vrai que c'est bien si on peut témoigner, être témoin de, être celle et lumière dans le monde. Quelqu'un d'autre encore ? Werner, volontiers.
Dieu est bon. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas partagé ce que je vis, bon, que nous vivons. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Ça fait 5 ans que j'ai été greffé. D'ailleurs, hier, on a eu greffe de la moelle épinière, pour ceux qui ne savent pas. Pardon ?
C'était pour la, une fête du Maradon autour de la transplantation des, de la greffe.
D'accord. Donc hier, on était au Maradon. C'est au marathon des dons. Super journée, évidemment, sous le soleil de plomb, depuis l'hôpital à Jugé jusqu'au bout du monde, où il y a la fête de l'espoir. Alors, c'était émouvant de voir toutes ces personnes, des personnes bien plus âgées que moi, qui étaient là, fervent, en dansant du salsa, parce que devant, il y avait, avait un groupe, une banda de salsa, et... j'ai rencontré mon professeur, qui était tout content aussi que c'était déjà 5 ans, que la greffe a bien passé. Et il m'a fait remarquer que je vieillissais pendant ce temps-là aussi, parce que c'est une raison que je vais quelquefois moins bien. Alors je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et je remercie encore pour vos prières pendant toutes ces années. Que Dieu soit loué.
Amen. On déborde un petit peu, mais si quelqu'un aimerait encore dire quelque chose, je pense que c'est aussi encourageant d'entendre les frères et sœurs. Si ce n'est pas le cas, je vous propose de clore ce temps de louange, en tout cas cette petite partie du temps de culte, par le chant qui dit « Tu es merveilleux, nul n'est comme toi, Dieu puissant, éternel ». Tu nous as consolés, tu nous as relevés, et que le Seigneur puisse être, c'est vrai, celui vers qui on va d'abord. Comme toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux. Amen. invite à vous rasseoir.
Merci au groupe de louanges. Pour les enfants, maintenant, c'est le temps d'aller rejoindre vos groupes. Et j'aimerais juste prier pour vous et pour vos moniteurs avant que vous descendiez. Dieu et Père, j'aimerais te remettre ces enfants. Te demander de les bénir, de leur donner de pouvoir te connaître comme le seul vrai Dieu, le Dieu d'amour, et qu'ils connaissent aussi ton Fils Jésus-Christ comme celui que tu as envoyé. J'aimerais que tu bénisses aussi les moniteurs qui leur apportent ta parole, qui leur apportent un message, et que cela soit comme une petite graine dans leur cœur, et que tu arroses pour que cela grandisse et porte du fruit. Amen. Pour la suite, nous allons passer au message, et avant le message qui va être transmis par Philippe Cornu, je vais vous faire les lectures, trois lectures, dans Jean 13, versets 12 à 17. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se mit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Dans Luc 20, versets 1 à 8. Un de ces jours-là, Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, avec les anciens, survinrent alors et lui dirent « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, ou qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit « Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Dans Luc 23, versets 32 à 43. On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi !» Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. »
Bonjour chers amis. Entre l'ascension et Pentecôte, est-ce qu'il y a un certain vide ? Où est Jésus ? Ses amis ont eu toutes sortes d'émotions entre la mort et la résurrection. Nous espérions qu'il délivrerait le peuple. Jésus s'en va en leur disant « Je reviendrai. Attendez à Jérusalem. » Ils ont passé par toutes sortes d'états d'âme. Suite aux textes qui nous ont été lus par Johann, chacun devinera certainement le sens des trois lettres que j'ai suspendues ici à la croix aujourd'hui. A au sommet, petit écriteau INRI qu'on voit sur toutes les illustrations, dans les avis mortuaires aussi, un peu partout sur les croix. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. S et R placés en dessous sur le transept de la croix et qui ont aussi un sens, ces trois lettres formant, disons, trois mots, sont les premières de trois mots qui concernent toute la société, qui nous concernent et dont la Bible parle abondamment. Il est important que le A soit au-dessus de INRI, et que les deux autres soient à niveau égal, le S et le R. Alors, je vous donne un petit indice pour deviner le sens des trois mots concernés. Premier indice, ce n'est pas l'Académie des sciences de Russie, ce n'est pas les AESR, dont nous aurions oublié le E. C'est les termes autorité, soumission, rébellion. Et quelques mots sur l'autorité d'abord. Vous savez peut-être que certains parmi nous ne sont pas de langue maternelle française, mais l'autorité se conjugue, on pourrait dire avec trois verbes, le verbe avoir, le verbe être et le verbe faire. Dans le sens que avoir de l'autorité, c'est avoir un caractère et une influence naturelle propre à induire un peu le respect, si ce n'est la soumission. Il y a des gens qui ont de l'autorité tout à fait naturellement. On peut le tester, on peut voir les composantes de l'autorité naturelle. C'est extrêmement intéressant de faire ça, je l'ai fait dans ma vie professionnelle. Être une autorité, c'est être promu, élu, désigné pour un rôle hiérarchique, politique, un rôle de pouvoir institué. Les autorités nous gouvernent, par exemple. Et faire autorité, c'est posséder une connaissance qui constitue une référence dans un domaine. Faire autorité en la matière scientifique, par exemple, dans un domaine quelconque, ou ça peut être une personne, ou ça peut être un livre, ou ça peut être une référence musicale, écrite, peu importe. La Bible fait autorité chez les chrétiens, en principe. Je me souviens que un enfant de 5-6 ans à peu près, il commence à être sensible un peu au temps. À hier, à demain... J'ai deux petits-fils, c'est marrant, on voit qu'ils commencent à être sensibles au temps. Et il y a un jour, un de mes petits-neveux, Il était avec sa mère qui lui donnait des rudiments de culture chrétienne, un petit peu la création, des choses gentillettes. Et le petit a dit à sa maman, mais au tout début de la terre, au tout début, il y avait Dieu ou la police ? Ça, c'est authentique, petit. Dieu ou la police ? Même un petit enfant qui n'est pas du tout brimé, qui n'est pas du tout menacé d'aucune sorte, il commence à ressentir la tutelle et l'autorité qui impacte sa vie. Il commence à comprendre qu'il y a des choses faisables ou non. Et si ce qui est permis et interdit est reconnu et partagé par un groupe, par les membres d'un groupe, eh bien ce groupe peut vivre en très bonne intelligence. Si les lois sont connues et respectées, les choses peuvent marcher fort bien. Ce que l'on appelle aujourd'hui la cohésion sociale, ou le vivre ensemble dont on nous bassine à longueur de journée, parce qu'on n'arrive plus à y parvenir, implique que l'autorité civile par exemple, maintienne et promeuve des valeurs civilisatrices partagées par tous les membres de la collectivité et qui permettent de vivre dans une certaine harmonie. Mais cela implique aussi qu'une autorité digne de ce nom doit être univoque, c'est-à-dire ne doit pas changer d'avis tout le temps sur les mêmes sujets, elle doit être bienveillante et elle doit être juste. S'il n'y a pas au moins ces ingrédients, cette autorité peut vaciller. Et les détenteurs de cette autorité, les représentants, les personnes qui incarnent cette autorité, doivent dans toute la mesure du possible être exemplaires quant aux valeurs morales qu'ils défendent, morales et sociales qu'ils défendent. C'est un idéal, mais une vraie autorité doit avoir des convictions fortes, bien structurées, associées à une bonne capacité de les formuler. Une autorité brouillonne, ça ne marche pas. Et en plus, si cette autorité veut durer, il faut qu'elle ait une bonne capacité d'écoute et, moi, j'ajoute la capacité de savoir rester humble. Voilà. C'est pas simple, c'est pas facile, mais voilà un peu les caractéristiques idéales des autorités, de l'autorité. Dans le cadre de la petite école, il y a beaucoup d'années, on jouait à se dire quel métier tu feras. Et puis, on ne devait jamais dire le métier qui a déjà été dit. Donc, on avait avantage à être au début parce qu'on avait plus de choix. Puis, des fois, on ne savait plus que dire. Alors, c'est une espèce de jeu, de petit. Et je me souviens que c'était toujours policier ou pompier. Ça, c'était vraiment bien. C'était les bons métiers. Pompier, policier, ça, c'était la base. Et puis, un jour, c'était à mon tour de poser la question. Et j'avais un compagnon qui était un petit gars mince-olet, on était à la petite école, il était maigre, il était vraiment, on dit fluet. Et il était anglais, Robin Bonner, il était anglais, je me souviens de ce petit gars, c'est la seule chose que je me rappelle de lui. Et je lui dis alors, qu'est-ce que tu feras comme métier ? Il me regarde, chef du monde. Chef du monde, voilà, clair, candide. Affirmatif, et il n'y est pas encore parvenu à mon avis, mais on sentait un tempérament pas forcément humble. Alors, l'autorité a de sens que dans la mesure où il y a une possibilité de s'y soumettre, c'est-à-dire de se déterminer devant cette autorité, de se situer face à elle, sans quoi elle est ignorée, un peu comme les lois qui font autorité, mais on ne les connaît pas. Où on n'en connaît qu'un petit peu. Alors on les ignore. Et l'autorité a une connotation hiérarchique. C'est pour ça que le A, d'autorité sur la croix, le A est au-dessus, même de INRI. INRI, c'était un décret de l'autorité romaine. Et la vie s'est écrite dans les trois lettres, dans les trois langues que nous avons lues. Et puis il y a quelqu'un qui lui a dit, mais dis pas ça, dis ce type a dit, je suis le roi des Juifs. Et Pilate a dit, non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc l'autorité civile était là, mais au-dessus, l'autorité du Christ était là, et il était pendu au bois. Je me souviens qu'il y a une soixantaine d'années à peu près, hein, je peux dire ça, une soixantaine d'années, on avait un peu peur de l'autorité. On en avait un peu peur. Il convenait de respecter absolument les règles. Il était hors de question de tutoyer la maîtresse à l'école, par exemple. On lui disait « mademoiselle », on lui donnait la main. Mais on avait une espèce de courtoisie très, un peu craintive. Il y avait les règles familiales, les heures des repas, des choses comme ça qui aujourd'hui sont en train un petit peu de voler en éclats. Il y avait les règles de la classe d'école qui étaient assez strictes. On devait se mettre en rang avant de rentrer dans la classe. On devait rester debout avant de s'asseoir. La maîtresse devait nous dire, ou le maître nous disait, vous pouvez vous asseoir. Enfin, c'était l'autorité. Bon, elle était là, quoi. Et il y avait la police. Évidemment, la police, je me souviens qu'elle réglait la circulation avec un bâton blanc, comme ça. Il fallait arrêter, il fallait passer. Tout le monde jouait le jeu. Disons qu'on percevait assez facilement, assez rapidement les raisons d'être, voire les avantages, de se soumettre à l'autorité, dans le sens où une autorité bienveillante apporte de la sécurité à un enfant. La soumission, c'est pas la passivité, c'est plutôt l'acceptation du rôle de l'autorité. C'est l'adhésion à sa nécessité. Toutefois, elle est susceptible de dévier de cet idéal que l'on vient d'évoquer. Elle peut devenir partiale, elle peut devenir injuste, elle peut devenir corrompue, malheureusement. Et en plus, le cœur humain n'est pas toujours enclin à la soumission. Si parfois l'autorité engendre une adhésion qui paraît aller de soi, il y a des gens, c'est fantastique. J'ai côtoyé des gens, ils donnent un avis, tout le monde s'aligne. Vous ne savez pas comment ça se fait. Elle semble aller de soi, cette autorité. Ça, c'est vraiment les bons leaders. Sans violence, sans rapport de force, sans chantage. Disent quelque chose, ça va de soi. C'est rare et c'est bénéfique. Mais si l'autorité peut être de cette qualité, elle peut aussi engendrer beaucoup de résistance. D'où la deuxième lettre, révolte, ou rébellion. La révolte, c'est évidemment l'opposition à l'autorité. Elle peut aller de la forme la plus sournoise, ignorer l'autorité, cause toujours, c'est vraiment sournois, jusqu'à l'hostilité la plus violente, les révolutions, les bains de sang. Et une lecture rapide de la presse nous montre que presque tous les régimes politiques ont en leur sein une fraction, une partie d'opposition, un parti plus ou moins caché, plus ou moins ouvert, suivant le genre de gouvernement. Mais ce qui est surprenant, entrons dans le vif de notre sujet rapidement, c'est que la religion qui est une forme d'autorité sociale et morale, et on le dit, la Bible fait autorité, c'est clair, elle a produit autant de malheur que de paix, autant de paix que de conflits sociaux. Les guerres de religion ont peut-être été les pires de l'histoire. Certains leaders associent le pouvoir à la religion, ou bien ils ont utilisé la religion comme moyen de maintenir des gens dans l'esclavage, ou dans la pauvreté, ou dans l'ignorance. Enfin, en lisant ces choses, j'ai personnellement plutôt tendance à penser que l'association entre la religion et le pouvoir politique, c'est un problème, c'est un attelage boiteux, pour ne pas dire une charrue à chien, dont il faudrait pouvoir s'abstenir. On ne peut pas toujours, mais il faudrait pouvoir s'abstenir. Bien sûr, face à l'autorité humaine, il n'y a pas que les deux réactions, soumission ou révolte. Il y a toute une gamme. Aujourd'hui, on va plutôt employer les termes comme collaboration ou contestation. C'est mieux dit. Mais c'est toujours le même principe. Pour clore ce petit chapitre, je peux me demander, nous pouvons nous demander si la soumission à l'autorité est toujours une vertu. Je rappelle en passant que nous fêtons les 500 ans de la Réformation et que cette Réformation n'était pas une douce soumission au clergé catholique, bien au contraire. Nos textes nous montrent que Luc 20, Jean 13 nous montre la nature et l'origine de l'autorité de Jésus. Avec nos 2000 ans d'histoire chrétienne, de théologie, on a décortiqué l'évangile dans tous les sens, il nous paraît évident que Jésus, étant de substance divine, est en fait le propriétaire de tout, de toute la création. Il est l'autorité suprême, il fait autorité. Pour l'accréditer, il possède une puissance illimitée envers toute la création. Il le démontre. Le problème, c'est que ses attributs divins sont masqués, cachés, voilés sous une apparente faiblesse, sous l'humilité du serviteur souffrant d'Ésaïe 53, celui qui n'avait rien pour nous plaire. On peut dès lors supposer que la question des pharisiens, des autorités religieuses de l'époque, les chefs des prêtres, les pharisiens, les scribes, enfin l'autorité religieuse, est sincère. Ils lui disent, mais de qui tiens-tu ton autorité? De qui tiens-tu ton mandat pour faire ce que tu fais? Qui t'autorise à enseigner dans le temple, par exemple? Comment peux-tu te légitimer? Et question à laquelle Jésus répond, répondez aussi à une de mes questions, puis on discute après. Puis ils ont dit, on ne sait pas, puis il a dit, moi je ne vous réponds pas. Ça a été assez clair. Retenons ici que Jésus rassemble dans sa personne les caractéristiques de l'autorité que nous évoquions. Il a de l'autorité parce que son enseignement est univoque, il est droit, il est incorruptible, il est bienveillant. Il est capable de démontrer ce qu'il dit. Ça, c'est le propre de l'autorité. Il est une autorité car il détient un pouvoir d'action non seulement vers des gens, mais envers la création, envers des esprits, envers des maladies, envers des éléments de la nature, tempête, pluie, vent, etc. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est qu'il est humble de cœur. C'est que ça ne se voit pas, ce statut, il n'y a pas ces pompes de premier ministre pour l'accréditer. Il n'y a rien de visible autre que ces signes que pas tout le monde est capable de voir. Or, malgré toutes ses qualités et ses vertus, Jésus n'a pas rencontré que la soumission et n'a pas rencontré que l'enthousiasme. Il a fait face à une haine sans cause objective qui l'a conduit à la croix, parce que c'est dans le cœur humain que ça ne marche pas. On va actualiser un petit peu le mécanisme pour nous en quelques minutes. Cette question de la relation à l'autorité, mais un peu dans l'Église plutôt que l'autorité civile. L'autorité civile, nul n'est censé ignorer les lois, bonne chance. Et surtout la jurisprudence, il y en a des kilomètres. Bon. Je n'imagine pas vous faire une révélation en vous disant que nous, protestants évangéliques, n'avons pas de clergé. Pas de clergé. Nos ministres sont nos proches, conseillers, mais ce n'est pas un clergé, ce n'est pas des intermédiaires entre Dieu et nous, ou entre Jésus et nous, ce n'est pas des intermédiaires au salut. La Réformation avec ses cinq, sola, solus, soli, qui était célèbre, qui était la base, entendait abolir toute idée de clergé intermédiaire pour l'accès au salut en Jésus-Christ. Et nous emboîtons volontiers le pas à l'apôtre Paul en qualifiant le Christ de chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Je ne crois pas que ça choque de dire ça, c'est tout à fait l'essence de notre foi. Il y a pourtant deux problèmes. Premier, c'est que Jésus n'est pas ici, visible, en chair et en os, pour nous dire, au gré des circonstances, ce qu'il faut faire, prendre les décisions. Et par conséquent, la question de savoir par qui s'exerce son autorité sur l'Église se pose. Est-ce le Saint-Esprit directement dans notre vie intérieure? On a tous le même statut, on a tous la même autorité à ce moment-là. Est-ce le Saint-Esprit par la voix de personnes qualifiées et reconnues comme telles? Certainement, il faut qu'elles soient reconnues. Et ensuite, sommes-nous parfaitement toutes et tous au clair sur le contexte dans lequel l'apôtre Paul affirme que Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Bon, je vais vous le relire au cas où on avait oublié ce contexte. Éphésiens chapitre 5. Ne vous enivrez pas de vin. Pas de problème. Cela mène à la débauche. Bon. Soyez au contraire remplis de l'esprit. On aspire tous à cela. Dites des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Nous venons de le faire. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On est en phase. On est en phase. Maintenant, la suite. Soumettez-vous les uns aux autres, dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Là, j'aimerais avoir un appareil comme j'avais quand je mesurais les sentiments des gens par rapport à l'autorité, pour mesurer les sentiments que ce texte induit en nous. Et pour prendre un exemple au hasard, évidemment, ce qu'il induit chez les demoiselles du groupe de jeunes, par exemple. Et c'est vrai que dans un contexte comme le nôtre, avec une longue tradition de lutte, d'égalisation du statut homme-femme, etc., on a aussi une certaine crainte bleue de l'islam. Je ne crois pas que beaucoup d'entre vous, mes sœurs, veulent se voiler, se mettre sous un rideau pour pas qu'on les voie. On n'a pas tellement envie de considérer la fin du texte comme faisant autorité. On veut bien emboîter le pas à l'apôtre Paul pour tout le début et l'hymnologie, ça, oui. Mais la soumission mutuelle, la soumission des couples, ça nous fait un peu grincer. On aura tendance à se précipiter sur des termes comme contextualiser, relativiser, actualiser, ne pas prendre à la lettre, symboliser, pour la deuxième partie du texte, et au risque d'en rajouter une couche, vous voyez où j'en suis, je constate que plusieurs dames parmi nous, plusieurs femmes adultes parmi nous, n'ont pas de mari. Alors, pour se soumettre, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'arrive à la conclusion et je suis content d'y arriver. Notre réflexion en rapport à l'autorité, et je ne prêche pas le retour au Moyen-Âge, mais concluons avec ce texte magnifique de la crucifixion et des deux malfrats. Jésus est crucifié entre ces deux malfrats. Qui le connaissent ou qui connaissent une part de son identité ou de son enseignement, on ne sait pas si la condamnation de ces malfrats était justifiée, si elle était objective, si en fait cette condamnation était juste ou bien un peu arbitraire. Nous ne pouvons en tout cas pas dire que la condamnation à mort de Jésus était juste, en tout cas pas, mais nous devons nous incliner devant le fait qu'elle était nécessaire à notre salut. Autorité, soumission, rébellion. Le premier malfrat, c'est la révolte. Furieux, il subit la même peine que Jésus. Il met ses dernières forces à invectiver Jésus. Il invoque son statut de Messie, vous avez remarqué. Si tu es le Messie, donc il avait la culture. Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Remarquons que Jésus ne lui répond pas. Le second malfrat, c'est la soumission. Curieusement, il répond au premier malfrat. Jésus n'a pas répondu, mais le deuxième malfrat répond au premier. Il lui dit, mais n'as-tu pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine? Pour nous, ce n'est que justice, car nous subissons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et à la dernière minute, la dernière minute de sa vie, ce second malfrat comprend qui est Jésus. Et il le demande d'une manière pathétique, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Donc il a tout compris, que l'autorité suprême était dans ce Christ pendu à la croix à côté de lui. Et l'extraordinaire réponse de Jésus, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Eh bien, ce qu'il faut en conclure, c'est que dès le jour où nous reconnaissons l'autorité et la crucifixion de Jésus pour notre salut, l'effet est instantané. Aujourd'hui, tu es passé de la mort à la vie. Aujourd'hui, indépendamment de la date de ton trépas, si tu as foi en moi, tu seras avec moi dans le paradis. Que le Seigneur vous bénisse.
Alors, en voyant tes lettres, Philippe, j'ai vu que ça faisait « Son Altesse Royale » et que pour Jésus, c'était ce qui lui revenait. J'invite le groupe Louange à me rejoindre pour un chant. Nous allons passer au moment de la Sainte Cène. Je voulais juste rappeler encore par rapport à cette autorité qui vient par l'humilité. J'ai eu cette semaine, ça concernait le travail au niveau organisationnel et futur, j'avais beaucoup prié pour l'avenir, mon avenir professionnel, et on fait toutes sortes de plans, de scénarios divers et variés sur comment ça peut se passer pour que ça se passe bien, que ça s'oriente bien. Et dans tous les scénarios, il y a toujours une part de compromis, ça c'est bien, mais voilà. Bref. Et cette semaine, j'ai appris que dans l'organisation qui allait la manière dont ça allait se réorganiser, c'était la seule chose idéale que je ne pouvais pas imaginer, mais que Dieu, après avoir prié, m'avait rappelé comme quoi, encore une fois, c'est lui qui détient les clés, qui a autorité sur toute chose. Et que c'est souvent, dans un petit moment comme ça, d'humilité, en se disant, encore une fois, on cherche à se faire des plans, et Dieu, il prévoit les choses, pas comme on les voit, mais elles sont très bien. Alors je vous invite à ce moment de Sainte-Cène pour se rappeler de ce Dieu, pour rappeler Jésus-Christ, son autorité, ce qu'il a fait pour nous. Et nous allons chanter un chant avant la Sainte-Cène.
Confondu par ta majesté, couvert par
Je vais lire l'institution de la scène dans 1 Corinthiens 11, versets 23-26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, devant ce pain, devant cette coupe, nous nous inclinons, nous adorons. Ta sagesse nous dépasse, nous sommes sans voix. Devant ta gloire, voilée sous ce manteau d'humilité. Que ton esprit nous secoure pour que nous puissions discerner dans les signes de ton corps et de ton sang les réalités spirituelles qui sont à la base de notre salut. Amen.
Amen.
Nous allons passer dans les rangs avec le pain et le vin. Il y a des plateaux et des coupes. Vous passerez le plateau. Au centre du plateau, il y a des coupes colorées. Il y a du jus de raisin dedans. Les autres, c'est du vin naturel. Ceux qui veulent la coupe, ils lèvent la main après avoir pris le pain. Si une personne peut nous aider, c'est ça, gentil.
Deux ou trois.
Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce d'avoir pu participer à ce repas de communion, de vie partagée. Veuille nous accorder de marcher dans la paix de cette communion, de ta vie partagée, avec toi tous les jours de notre vie. Amen.
Maintenant, on va passer un moment d'offrande. Et l'offrande, on peut comme toujours la faire de deux manières. Il y a bien sûr ce qu'on gagne, qu'on redonne en partie à Dieu. Et il y a aussi le temps qu'on gagne, le temps qu'on a, qu'on peut mettre à disposition d'autrui. J'invite Elisabeth à me rejoindre pour une petite communication. Et puis le groupe Louange, vous pouvez déjà venir sur scène.
Alors ce matin, il y a eu passablement de plusieurs témoignages. Là, c'est en même temps ce que je vais vous partager, un témoignage et un appel. Si un jour vous avez été hospitalisé, que vous étiez à l'hôpital un dimanche, vous avez certainement eu la visite dans votre chambre d'une personne qui est venue vous inviter à participer au culte ou à la messe. Donc les aumôneries protestantes et catholiques sont présentes dans des HUG qui comportent plusieurs sites, à Loire, au Cluses-Roseraie, donc c'est l'hôpital qu'on connaît le mieux, c'est le plus grand aussi, Beauséjour, Le Trois-Chênes et Collonges-Bellerive. Alors je vous parlerai plutôt du site Cluses-Roseraie, c'est là que je vais, et puis que les besoins sont le plus urgents. Alors pendant plusieurs années, il y avait une équipe qui passait dans les chambres pour inviter les malades, et les paroisses, à tour de rôle, déléguaient des personnes qui allaient dans les chambres chercher les malades pour les accompagner au culte. Alors c'était plutôt à ce moment-là, les patients qui venaient étaient dans les lits, c'est pour ça qu'on me dit, quand on dit, ah, tu vas pousser les lits. C'est vrai que des lits, j'en pousse pas beaucoup, mais c'était comme ça. Et puis, chaque dimanche, il y avait une messe suivie d'un culte. Puis pour toutes sortes de raisons, la restructuration de l'église protestante, avec moins de personnes, moins d'invitants aussi, a fait que ça a changé. Ils ont dû changer. Alors maintenant, c'est les mêmes personnes qu'on appelle des invitants qui passent dans les chambres pour inviter les malades et qui vont ensuite les chercher les personnes qui souhaitent venir et les accompagnent au culte. Alors, il y a maintenant 2 ou 3 ans, il y a eu plus qu'un culte. Tous les dimanches, une messe, et un dimanche sur deux, un culte, parce qu'il n'y avait plus assez de personnes. Et c'est vrai qu'il y avait aussi moins de malades, parce que maintenant, on reste moins longtemps à l'hôpital. Si on peut rentrer le week-end, on rentre. Mais quand même, il y a quand même encore beaucoup de malades. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'un service religieux par dimanche, animé un dimanche par les protestants et un dimanche par les catholiques. Où bien sûr, tout le monde est invité. Quand il y a la Sainte Cène, si c'est les protestants, c'est sûr que les catholiques sont aussi invités et vice-versa. Et pourquoi ça diminue gentiment? Ben tout simplement parce qu'il n'y a plus assez d'invitants pour assurer un culte tous les dimanches. Chez les catholiques, c'est moins criant. Ils ont encore plus d'invitants, mais ça baisse aussi. Et l'année dernière, la direction de l'hôpital a remis en question l'utilité de ces services, voyant qu'il n'y avait pas beaucoup de malades qui venaient. Ils se demandaient si vraiment ça, c'était utile. Et ils avaient envie un peu de récupérer les locaux. Alors, les aumôniers ont dû passablement négocier et prouver l'utilité de ces services religieux, qu'il n'y a pas seulement les personnes qui viennent au culte, mais quand on passe dans les chambres, il y a des personnes qui ne peuvent pas venir, parce qu'ils ne sont pas assez bien, et on leur propose de prier pour eux pendant le culte. Il y a un moment où on prie pour les malades qu'ils demandent, et qu'il y avait des fois plus de personnes qui demandaient qu'on prie que de personnes qui venaient au culte, donc c'était quand même utile. Et la direction a été convaincue et a donné son accord pour le maintien de ces services religieux. Alors, c'était une très bonne nouvelle, tout le monde était très content, mais il y a une ombre au tableau, c'est qu'il n'y a plus assez d'invitants. Alors, les raisons, elles sont diverses. Hein. Il y a plusieurs personnes qui ont fait ça pendant très, très, très longtemps, qui sont maintenant âgées et qui ne peuvent plus le faire, ne peuvent plus continuer. Dans les paroisses, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de renouvellement, et les personnes qui sont dans les paroisses sont souvent très engagées dans leur paroisse et ne peuvent pas s'engager. Et il y a des personnes, ça c'est un peu dommage, qui viennent quelquefois, puis après on les voit plus, ils ne persévèrent pas. Et le souci des aumôniers et du comité, qui fait un travail vraiment magnifique, et que maintenant que l'hôpital a donné son autorisation de continuer, qu'on ne puisse pas le faire parce qu'il n'y a pas assez d'invitants. Alors c'est pour cette raison qu'ils nous demandent d'en parler dans nos communautés et de faire de la pub pour trouver des nouvelles personnes. Alors, je ne vais pas vous donner maintenant beaucoup de détails sur ce que cela implique et la manière dont ça se passe. Je dirais juste que les dimanches pour lesquels on s'est inscrit, on a rendez-vous à 8h30 à l'hôpital, on se répartit les étages et après une prière d'envoi, on part dans notre étage à la rencontre des malades. C'est vrai, et malheureusement, alors qu'on devrait être au moins 10 par dimanche, et maintenant, avec le nouvel hôpital, l'idéal serait même d'être 12 ou 13, il arrive qu'on soit que 4, 5, 6, ce qui veut dire qu'on ne peut pas passer dans tous les étages, et qu'il y a des malades qu'on ne peut pas aller voir. Alors pourquoi moi je me suis engagée dans ce service? C'est parce que quand j'ai été malade, j'étais à l'hôpital, j'avais très envie de participer au culte. Mais j'ai entendu, la porte de ma chambre était ouverte, et j'ai entendu quand les personnes passaient, parce qu'on a toujours demandé aux infirmières l'autorisation de passer dans les chambres, et j'ai entendu l'infirmière qui disait que non, il ne fallait pas passer, il ne fallait pas venir me demander, parce que je n'étais pas assez bien. Elle avait certainement raison, mais c'est vrai que j'étais très, très, très déçue, parce que j'avais très envie d'aller au culte. Et un dimanche, on était encore à la chapelle, là, et quelqu'un a fait une annonce, un peu la même, que l'aumônerie recherchait des personnes, des invitants. Et je me suis dit, voilà, ça c'est... Comme moi, j'avais envie d'aller au culte, il y a très certainement beaucoup de malades qui ont aussi envie d'y aller, et j'ai envie de le faire pour donner la possibilité aux malades d'y aller. S'ils ne viennent pas, tant pis, moi ce n'est pas grave, mais au moins qu'ils aient la possibilité d'y aller s'ils ont envie. Et bon, des témoignages, je veux dire, la dernière fois, il y a 15 jours, 3 semaines, quand je suis allée, j'ai passé dans une chambre et il y avait deux dames, c'était dans le nouvel hôpital, et on passe vers chacune des personnes. Et la première personne, alors je propose, je lui demande si elle veut venir au culte, puis elle me dit, oh non, je ne suis pas bien, je n'ai pas bien dormi, je n'ai pas le moral, ma voisine de chambre, hier, elle a eu un malaise, elle est tombée, j'ai cru qu'elle était morte, ça m'a fait vraiment, non, je ne suis pas bien. J'ai dit, ben, je comprends, je ne veux pas vous forcer, mais si vous avez envie, si vous voulez, je repasse dans un moment, voir si ça va mieux, si vous avez quand même envie de venir. Après, elle me dit, non, vous avez peut-être, non, je vais venir. J'ai dit, ben, c'est très bien, je viendrai vous chercher. Et à la fin du le culte, après, je l'ai accompagnée au culte, et c'était un prédicateur laïque, parce que là aussi, maintenant, il y a plusieurs prédicateurs laïques, parce qu'il y a moins d'aumôniers. Et c'est un monsieur qui est presque aveugle suite à un accident qu'il a eu. Et sa prédication, c'était vraiment très, très simple, très concret, très, ouais, vraiment, vraiment tout, très simple, très, très basique, on va dire, mais très, très concret. Et à la fin du culte, elle m'a dit, quand je l'ai raccompagnée, elle m'a dit, ah, qu'est-ce que j'ai bien fait de venir. Heureusement que vous m'avez encouragée à venir, parce que ça m'a vraiment fait du bien. C'était vraiment ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Et aussi des petits moments de discussion quand on va dans les chambres avec les personnes qui n'ont pas envie de venir ou qui sont étonnées ou qui des personnes qui disent ben, « j'ai jamais été à l'église, je me suis jamais intéressée à Dieu, pourquoi ce pas maintenant, parce que je suis hospitalisée, qui va m'écouter si je m'adresse à lui ?» Ben oui, pourquoi pas. Ben, c'est peut-être justement le moment d'y penser, puis de peut-être, ben oui, c'est justement dans ces moments où on est plus faible qu'on peut ressentir et que Dieu, on va sentir que Dieu est là, qu'il peut agir en nous. Et une autre fois, une personne, je suis dans sa chambre, puis j'ai vu qu'elle est un peu préoccupée, puis je l'ai invitée, puis elle m'a dit non, je ne veux pas, non, je ne veux pas venir au culte, mais merci d'être venue m'inviter, c'est mon rayon de soleil pour la journée. Alors, c'est toujours très émouvant et encourageant de se dire qu'on a pu transmettre un peu de réconfort et un peu de lumière dans la journée de ces personnes. C'est du temps qu'on donne, c'est vrai, mais ça vaut la peine. Alors, si ça vous donne envie de venir, de vivre des tels moments, si vous avez des questions, ben venez vers moi à la sortie du culte et puis je vous donnerai toutes les indications. Et puis, si vous connaissez d'autres personnes, ben faites aussi un peu de la pub autour de vous. C'est vraiment une question importante de l'avenir de ces cultes à l'hôpital. Il y a aussi Nathalie Henry, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle est aussi impliquée comme auxiliaire d'aumônerie. Elle s'est formée pour ça. Et, alors elle fait plutôt les visites aux malades qui sont hospitalisés, mais en dehors des dimanches et qui demandent. Et elle aussi, elle est assez sensible, donc vous pouvez aussi une fois lui poser des questions. Alors voilà, je vous mets cette question sur votre cœur et... Et on a besoin de vous.
Merci Elisabeth. Je pense que c'est un sujet de prière, c'est un sujet de prière dans les différents groupes de maisons, que vous en souveniez pour que, effectivement, la parole de Dieu puisse continuer à être annoncée là où il y en a besoin. Et c'est un ministère qui doit être soutenu. Et comme on l'a dit, c'est une offrande de temps. On n'a pas toujours l'argent qu'on voudrait mettre au Seigneur, mais le temps, on en a. Donc, c'est un chouette ministère. Je vous invite à passer maintenant à l'offrande plus concrète, avec le chant « Ô Jésus, mon Sauveur ». Et je vais passer dans les rangs avec les lignes. Merci au groupe de louanges. Je vais prier pour la collecte. Dieu Père, j'aimerais te remettre cet argent qui est pour toi, pour ton ministère, pour ton église.
Veuille bénir ceux qui la partagent, qui répartissent les différents dons, que tu leur donnes sagesse et intelligence, et que tout cela serve à ton royaume, à toi. Amen. Alors maintenant, on passe aux annonces. Je pense que c'est Michel qui les fait.
Voilà les annonces. Oh là. C'est bon ? Alors, lundi, c'est ce lundi, le groupe de recherche vous invite au forum pour la présentation du candidat au poste de pasteur, Philippe Anchaud. Notez bien que cette rencontre débute à 19h30, ce qui est un peu particulier. Il y a à la sortie, sur le présentoir, le document de présentation de Philippe Anchaud pour ceux qui ne l'auraient pas reçu par email.
Il est dans les enveloppes.
D'accord. Il est dans les enveloppes que vous trouverez également à la sortie. Samedi 17 juin, dans la même perspective, un temps de prière. Donc, c'est temps de prière qui se vivent le matin entre 9h30 et 11h30. Mercredi 28 juin, il y aura le colloque de l'Église. C'est le colloque qui était prévu le 9 juin, que nous avons déplacé à cette date-ci. Vous remarquez que c'est aussi un mercredi, ce qui est non plus pas habituel. Et puis, il y aura, lors de ce colloque, l'élection du futur pasteur. On revient en arrière. Mardi 30 mai, il y a la prière communautaire à 20h15. Et puis, des informations diverses. Le week-end de Pentecôte, un week-end pour solo. Information, mais j'ai pas vu, j'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Elle y est ? Ah, voilà, Roger vous indiquera si vous voulez plus d'informations. Et puis, mardi 6 juin, la suite des ateliers bibliques autour des thèmes de la réforme. Le 6 juin, c'est être justifié par la grâce seulement. Mais alors, qu'advient-il de nos actions ? Et ces prochains dimanches, 3 juin, repas canadien. 11 juin, c'est le culte de fin de caté. Et le 18 juin, un culte de baptême avec apéro et repas canadiens. Voilà, bon dimanche à chacun. Vous trouverez, je reprécise juste, à la sortie, les enveloppes avec le mémo, la présentation de Philippe Anchaud. N'oubliez pas de prendre vos enveloppes si vous le désirez et si vous ne recevez pas ces informations par email. Vous trouverez aussi à la sortie le livre « Derrière ton sourire », si vous avez commandé ce livre, Denise Albissère est là avec le stock et puis est prête pour vous les distribuer.
Levons-nous pour la bénédiction finale. En vous soumettant les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Bonne journée.